Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Bamako. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le monde a célébré hier la journée internationale des casques bleus. Cette commémoration intervient au Mali dans un contexte marqué par la recrudescence de l'insécurité dans plusieurs endroits du pays. La région de Ségou a désormais son centre de transformation artisanale du coton. Ce centre d'une valeur de 100 millions de francs CFA contribuera au développement économique et à l'emploi dans le secteur de l'artisanat. La nuit de Laylatoul Qadri ou encore la nuit du destin sera célébrée ce soir. Pour les fidèles musulmans, la prière de cette nuit a plus de récompenses que l'adoration de 1000 nuits. Les détails de toutes ces informations, c'est tout de suite dans cette édition présentée par Arkia Touré et Noundiré assure la mise en onde. Je le disais tout à l'heure dans le titre, hier 29 mai a été célébrée la journée des casques bleus des Nations Unies. Une cérémonie a réuni pour l'occasion les responsables de la mission de l'ONU au Mali. Cette célébration intervient dans un contexte marqué par la recrudescence de l'insécurité dans plusieurs régions du pays. Toute chose qui relance les débats sur l'efficacité de la force onusienne au Mali et de son apport dans la stabilisation du pays. Pour certains, il ne faudrait pas attendre un grand changement dans son nouveau mandat qui sera renouvelé dans quelques jours. Les explications avec Moussa Malé Sissoko.
Les casques bleus des Nations Unies ont pour mission la protection des populations civiles dans les zones de conflit. Appelés soldats de la paix, ils mènent également des activités qui favorisent un environnement protecteur visant à restaurer et à étendre l'autorité de l'État. Dans une situation sécuritaire qui se dégrade de plus en plus au Mali, certains s'interrogent sur l'impact des opérations de ces forces sur les populations civiles dans le centre et le nord. Cependant, d'autres estiment que la présence de la force onusienne est remarquable.
Leur utilité dans la ville de Gao ne fait qu'empirer la situation au lieu de le calmer.
Présentement, il n'y a pas de rentabilité. Parce que souvent, même si on leur signale quelque chose, ils font semblant.
Moi, je dirais qu'ils ont vraiment une importance. Pas très efficace, mais leur présence est vraiment très, très importante.
Selon les responsables de l'AMINUSMA, les missions de paix n'ont pas pour vocation de lutter contre le terrorisme. Mahamat Saleh Anadif, chef de l'AMINUSMA.
Il est extrêmement important d'améliorer les moyens de déploiement des forces. Il faudrait leur donner un mandat un peu plus robuste qui leur permet de faire face aux dangers et surtout leur donner l'équipement et les moyens nécessaires qui peuvent les aider à mieux s'acquitter de cette tâche.
Pour Ibrahim Maïga, analyste à l'Institut d'études de sécurité, les casques bleus de l'AMINUSMA sont une force d'interposition entre les parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Selon lui, ce nouveau mandat pourrait être axé sur un rééquilibrage.
Il faut que la protection des civils soit un mode d'action de l'AMINUSMA. Et donc aujourd'hui, l'AMINUSMA doit réadapter ses moyens pour ces deux types de pressions, donc des pressions internes exercées par la population malienne, mais aussi par le gouvernement malien, mais au coût budgétaire.
Les éléments de l'AMINUSMA comptent 13 289 soldats et 1920 membres de la police. Son nouveau mandat sera renouvelé en fin juin prochain.
Réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook et notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Depuis son lancement le 2 juillet 2017 à Bamako par les 5 chefs d'État du G5 Sahel, la force conjointe frontalière tarde à assurer la sécurité au Sahel. Que pensent les populations du Niger et du Mali de cette force et quelles sont leurs attentes? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant du Tessit, Mohamed Lamine Sissé.
Au Mali comme au Niger, les populations attendent beaucoup de la force G5 Sahel. Même si la force a mené quelques opérations aux frontières du Mali, du Burkina et du Niger, il faut signaler que les attentes vis-à-vis de la force conjointe sont énormes, nous raconte Djabri Abdoulaye Meiga, conseiller spécial auprès du gouverneur de Gao.
La population attend beaucoup de cette force parce qu'elle pense réellement que cette force, dotée de moyens suffisants, pourra en tout cas vaincre ce phénomène d'insécurité qui retarde notre développement, qui retarde la promotion sociale de nos communautés et de nos États.
Sa première opération s'est déroulée en novembre 2017 avec les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Dans ces derniers pays, la force conjointe a laissé les populations sur leur faim, comme nous l'explique le vice-maire de la commune de Abala, dans la région de Tillabéri au Niger, M. Souley Meynassara.
Depuis qu'on a entendu parler de G5 Sahel, la population a beaucoup acclamé, a beaucoup applaudi. Mais jusque-là, vraiment, franchement, on n'a pas senti la présence de G5 G5 Sahel vit leur méthode vraiment du côté d'Abala. G5 Sahel, c'est notre attente et que vraiment nous souhaiterons voir G5 Sahel en train de faire des tournées de mouvement, surtout au long de cette frontière Niger-Mali.
Le transfert du QG de la force G5 Sahel à Bamako, décidé suite à l'attentat de Sévaré, continue de susciter des réactions à Bamako. Selon ce jeune leader, la place du G5 Sahel est au centre ou au nord du pays et non à Bamako.
Aujourd'hui, il se retrouve encore à Bamako, alors que c'est pas à Bamako qu'il y a la guerre. Les attentats, c'est au centre, c'est au nord.
Compte tenu de la situation d'insécurité dans le Sahel, des mesures urgentes s'imposent pour rendre cette force opérationnelle afin de permettre aux populations de vivre en paix. De Gao, Mohamed Lamine Sissi, pour Studio Tamani.
Un mouteillage à Bamako, un casse-tête aux heures de pointe, la circulation sur certaines voies de la capitale devient de plus en plus difficile et complexe aux heures de descente durant ce mois de Ramadan. Cette situation serait due au fait que les jeunes se bousculent pour aller rompre le jeûne à la maison. Selon la protection civile, la précipitation et l'intolérance des usagers sont à l'origine de nombreux accidents dans la capitale. Notre reporter Fatih Yattara nous donne plus de détails.
À partir de 17h, les voies sont saturées. Chacun veut se frayer un chemin pour passer. Certains ronflent les moteurs, démarrent brusquement ou tentent d'intimider pour avoir de la place. Ces agissements provoquent de nombreux accidents, souvent mortels. La protection civile affirme que les interventions ont nettement augmenté pendant ces mois de Ramadan. Commandant Abdraman Bagayoko, chef de division de secours et d'assistance à la Direction générale de la protection civile.
Particulièrement pendant ce mois de carême, on a une moyenne de 250 à 300 accidents par semaine sur lesquels nous intervenons. Ce que nous ne cessons de dire à la population, c'est toujours la prudence, c'est toujours le respect de la réglementation concernant les voies.
Cet usager très pressé que nous avons suivi depuis un moment vient de s'arrêter à peine au niveau d'un fait tricolore. Il nous explique très rapidement les raisons de son empressement.
Bon, comme c'est le mois de Ramadan, on est pressé de rentrer pour rompre les uns en famille, puisque c'est important. Une fois que tu as la famille, donc tu seras à l'aise.
Selon les explications de l'imam Abdallah Mega, rompre les jeûnes à leur pull est un acte méritoire très recommandé par l'islam. Toutefois, il conseille aux jeûneurs d'être prudents sur les routes.
C'est vrai que c'est les prescriptions divines même qui recommandent aux jeûneurs de rompre le jeûne à l'heure, mais que cela ne soit pas la raison qui pousse quelqu'un à s'exposer. Ici au Mali, notre culture est telle que dès qu'il est l'heure de rompre le jeûne, tu peux le faire en cours de route, soit chez un boutiquier ou même dans une famille quelconque. Mieux vaut procéder ainsi que d'aller se faire tuer parce que tu veux à tout prix être à la maison à l'heure pour rompre le jeûne.
Les bouchons persistent et cela malgré les tentatives des autorités de la circulation routière à rendre plus fluide la circulation. À partir de 17h, certaines routes à caractère double voie sont transformées en sens unique.
La nuit de Lailatul Qadr ou encore la nuit du destin sera célébrée ce soir selon l'imam de la mosquée de Torokorobougou. Cette nuit est un moment de pardon et d'adoration intense d'Allah pour Mahamadou Diallo. La récompense et l'agrément d'une prière de cette nuit est égale à celle de 83 ans. Mahamadou Diallo, imam de la mosquée de Torokorobougou, joint depuis la Mecque par Mahamad Baba Kunta.
C'est une nuit extraordinaire où le Coran dit, nous avons certes révélé le Coran dans cette nuit bénie de Laylatul Qadr. C'est une nuit où Aïcha, la mère de croyants, pour poser la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si la nuit de destin arrive, qu'est-ce que je dois dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète a répondu, il faut dire Allah, vous êtes pardonneur, donc vraiment, je vous demande pardon. Donc, si on résume un peu la nuit du destin, c'est pour s'engager à une nouvelle vie, à une vie meilleure, le musulman doit s'engager à partir de cette nuit-là vraiment à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si le musulman prie des rakats et que ça coïncide avec la nuit de Laylatul Qadr, il aura la récompense de 83 ans et 4 mois.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Il est 8h passé de 9 minutes. Les informations dans les régions, je le disais dans le titre, à Ségou, plus de 100 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation du centre sous-régional de transformation artisanale du coton. L'infrastructure a été inaugurée lundi dernier en présence du ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Il est composé de 2 salles de tissage, une salle d'ourdissage, une salle de vérification de coupe et de contrôle des qualités, une salle de filature, une salle de formation et 2 salles d'exposition. financiée par l'Union européenne, ce centre contribuera au développement économique et à l'emploi dans le secteur de l'artisanat. Il permettra aussi de réduire la pression migratoire. Kourou, assassinant des hommes armés non identifiés, ont attaqué le mardi dernier le village de Konokourou dans la commune de Djankabou, cercle de Kourou. 4 habitants ont été tués et un autre grièvement blessé. Ces derniers ont été évacués à Mopti. Une autre attaque a eu lieu ce mercredi dans le village de Sengemara, faisant un blessé, rapporte toujours les sources locales. Voilà, il est 8h passé de 10 minutes. S'achève ce journal présenté par Arkia Touré. Noumdjiré était à la technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais les matinales de Studio Tamani se poursuivent dans quelques instants. C'est Juliette Kloubali pour la version Bamanakan.